Compréhension de l'oral, niveau avancé, sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Dans cette émission, Dominique Versini, il y a toujours le vendredi soir avant 19h, une rubrique positive. Ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, une initiative qui va forcément vous intéresser, Dominique Versini. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, un concept de colocation inhabituel. Il vient d'ailleurs d'être primé par la société Saint-Vincent de Paul pour son côté innovant, humain et solidaire. Son nom, Caracol, escargot en espagnol.
Écoutez, quand vous cherchez une colocation, à la limite, vous choisissez le secteur proche de la fac ou du boulot. Mais pour le reste, sur qui on tombe, c'est la loterie. Avec Caracol, on choisit de coloquer avec l'autre bout du monde.
C'est-à-dire ?
Moite-moite, jeunes Français fauchés et jeunes migrants qui, par définition, n'ont pas de travail, pas de salaire, pas de caution et personne, évidemment, pour se porter garant.
Alors quel propriétaire va accepter ça sans garantie ?
Mais justement, c'est ça la bonne idée. Simon Guibert, le fondateur de Caracol, n'a absolument rien inventé. Il a connu ça en Suisse. Caracol ne démarche que les propriétaires dont le logement est vacant et voué à terme à la démolition.
Alors vous vous êtes rendue, Sandrine, dans la toute première colocation ouverte en février au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.
Qui aurait imaginé qu'il puisse s'échapper un air de piano de cette maison vouée à la démolition ? Lui, celui qui taquine les touches, Simon Guibert, à l'origine de Caracol.
En fait, on est où là ?
Et bah ici, en fait, on est dans un ancien garage. C'est pour ça qu'il y a 4 mètres sous plafond, des verrières en haut. À la base, il y avait absolument rien quand on est arrivé. En fait, on est sur le tracé de la ligne 15 du nouveau métro. Et en fait, ce lieu est resté vide parce qu'il va être démoli.
Grand Paris.
Exactement, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut l'occuper avant qu'il soit détruit.
150 mètres carrés qui ne servaient plus à rien, ce serait dommage. Allez, on monte au premier étage.
Donc là, il y a la chambre de Virginie, là, il y a la chambre de Roustam, la chambre de Mohamed, et là, c'est ma chambre juste ici. On ne paye pas de loyer. En revanche, on entretient le bâtiment. On paye 190 euros par mois, toutes charges comprises, internet, l'assurance, et on peut occuper le lieu gracieusement à disposition par la Société du Grand Paris.
Quelle est la différence d'une coloc ordinaire et une coloc avec des réfugiés ?
C'est la chance d'habiter avec des personnes qui viennent d'un autre pays, qui ont une vision du monde qui peut être complètement différente, des histoires d'enfance, des parcours de personnes. Moi, je changerais de coloc pour rien au monde. On se loge pour pratiquement rien et on en retire une richesse énorme.
Pour Virginie, c'est pareil, elle est comédienne, sa chambre est au bout de la passerelle.
C'est là.
C'est votre chambre ?
Ouais.
C'est pas super rangé. Hein.
Et pourtant, j'ai un peu rangé.
Qu'est-ce qui vous plaît ici par rapport à une coloc, on va dire, traditionnelle ?
Clairement, je vis avec 4 personnes, je pense, que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie. de tous les jours. Sur 5, il y a quand même 3 personnes qui sont réfugiées. Moi, je suis blanche française. Ça a été une ouverture de malade, quoi. Enfin, toutes les colocs que j'ai faites, qui étaient des colocs géniales, parce que c'était avec des amis, c'était des gens plus ou moins de mon milieu. Enfin, ça reste des Français. Et là, du coup, c'est hyper enrichissant, quoi. Ça m'a ouvert l'esprit de ouf, en fait.
Ici, c'est pas qu'un toit.
Ah non, absolument pas.
La preuve. Ce qui se passe là, dans la cuisine.
C'est quoi ça, Yacine ?
Un plat somalien.
Yacine, le premier migrant arrivé ici.
Il s'appelle Sokar.
Sokar.
Oui, c'est un plat très populaire en Somalie. J'ai envie de présenter notre cuisine, notre culture.
C'est important pour vous de parler de votre pays.
Oui, c'est important.
Qu'est-ce qui vous apporte les autres ? Simon, qui est nantais, Virginie, parisienne. Vous pourriez faire une colloque avec des Somaliens.
Ça me plaît beaucoup.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Dans cette émission, Dominique Versini, il y a toujours le vendredi soir avant 19h, une rubrique positive, ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, une initiative qui va forcément vous intéresser, Dominique Versini. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, un concept de colocation inhabituel. Il vient d'ailleurs d'être primé par la société Saint-Vincent de Paul pour son côté innovant, humain et solidaire. Son nom, Caracol, escargot en espagnol.
Écoutez, quand vous cherchez une colocation, à la limite, vous choisissez le secteur, proche de la fac ou du boulot. Mais pour le reste, sur qui on tombe, c'est la loterie. Avec Caracol, on choisit de colloquer avec l'autre bout du monde.
C'est-à-dire ?
Moite-moite, jeunes Français fauchés et jeunes migrants qui, par définition, n'ont pas de travail, pas de salaire, pas de caution et personne, évidemment, pour se porter garant.
Alors, quel propriétaire va accepter ça sans garantie ?
Mais justement, c'est ça la bonne idée. Simon Guibert, le fondateur de Caracol, n'a absolument rien inventé. Il a connu ça en Suisse. Caracol ne démarche que les propriétaires dont le logement est vacant et voué à terme à la démolition.
Alors vous vous êtes rendue, Sandrine, dans la toute première colocation ouverte en février au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.
Qui aurait imaginé qu'il puisse s'échapper un air de piano de cette maison vouée à la démolition ? Lui, celui qui taquine les touches, Simon Guibert, à l'origine de Caracol.
En fait, on est où là ? Et bah ici, en fait, on est dans un ancien garage. C'est pour ça qu'il y a 4 mètres sous plafond, des verrières en haut. À la base, il y avait absolument rien quand on est arrivé. En fait, on est sur le tracé de la ligne 15 du nouveau métro. Et en fait, ce lieu est resté vide parce qu'il va être démoli.
Grand Paris.
Exactement, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut l'occuper avant qu'il soit détruit.
150 mètres carrés qui ne servaient plus à rien, ce serait dommage. Allez, on monte au premier étage.
Donc là, il y a la chambre de Virginie, là, il y a la chambre de Roustam, la chambre de Mohamed, et là, c'est ma chambre juste ici. On ne paye pas de loyer. En revanche, on entretient le bâtiment. On paye 190 euros par mois, toutes charges comprises, internet, l'assurance, et on peut occuper le lieu gracieusement à disposition par la Société du Grand Paris.
Quelle est la différence d'une coloc ordinaire et une coloc avec des réfugiés ?
Bah, c'est la chance d'habiter avec des personnes qui viennent d'un autre pays, qui ont une vision du monde qui peut être complètement différente. Des histoires d'enfance, des parcours de personnes. Moi, je changerais de coloc pour rien au monde. On se loge pour pratiquement rien et on en retire une richesse énorme.
Pour Virginie, c'est pareil, elle est comédienne, sa chambre est au bout de la passerelle.
C'est là.
C'est votre chambre ?
Ouais.
C'est pas super rangé. Hein.
Et pourtant, j'ai un peu rangé.
Qu'est-ce qui vous plaît ici par rapport à une coloc, on va dire, traditionnelle ?
Clairement, je vis avec 4 personnes, je pense, que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie. de tous les jours. Sur 5, il y a quand même 3 personnes qui sont réfugiées. Moi, je suis blanche française. Ça a été une ouverture de malade, quoi. Enfin, toutes les colocs que j'ai faites, qui étaient des colocs géniales, parce que c'était avec des amis, c'était des gens plus ou moins de mon milieu. Enfin, ça reste des Français. Et là, du coup, c'est hyper enrichissant, quoi. Ça m'a ouvert l'esprit de ouf, en fait.
Ici, c'est pas qu'un toit.
Ah non, absolument pas.
La preuve. Ce qui se passe, là, dans la cuisine.
C'est quoi ça, Yassine ?
Un plat somalien.
Yassine, le premier migrant arrivé ici.
Il s'appelle Sokar.
Sokar.
Oui, c'est un plat très populaire en Somalie. J'ai envie de présenter notre cuisine, notre culture.
C'est important pour vous de parler de votre pays.
Oui, c'est important.
Qu'est-ce qui vous apporte les autres ? Simon, qui est nantais, Virginie, parisienne. Vous pourriez faire une coloc avec des Somaliens.
Ça me plaît beaucoup.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
6h16, on passe à l'esprit d'initiative Emmanuel Moreau. Deux copains, l'un veilleur de nuit dans un hôtel, l'autre travaillant dans l'événementiel, organisent des collectes anti-gaspillage dans les hôtels parisiens.
Et oui Mathilde, 3 fois par semaine, la camionnette de l'association des hôtels solidaires fait sa tournée. Le lundi, elle est rive droite, le mercredi rive gauche et le samedi, les deux. Dès 11h du matin, ces bénévoles descendent du véhicule, panier à la main. Ils poussent la porte des cuisines des hôtels pour récupérer les buffets des petits déjeuners afin de les redistribuer aux personnes en difficulté. Au sourire des serveurs, ils savent qu'ils sont attendus et les bienvenus. Pierre Capel, cofondateur des hôtels solidaires.
Quand on arrive, les dons sont prêts en général. L'équipe nous connaît. Ils ont réservé en fait les viennoiseries qui n'avaient pas été consommées dans un petit sac ou ils les mettent dans les sacs alimentaires que nous on apporte. Et on repart directement continuer la collecte.
Alors qu'est-ce que vous collectez ? Aussi bien des tartines que des pains au chocolat ?
Alors ce qu'on collecte, c'est des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin, des brioches, des pains aux céréales, des fois des jus, des fruits. Mais la plus grosse partie, c'est vraiment des viennoiseries.
Et vous récupérez le beurre et la confiture ?
Non, malheureusement. À part si la confiture, elle est neuve et bien scellée, mais tout ce qui est produit frais et tout, on peut pas.
Donc pas de brouillé, pas d'omelette, pas de choses comme ça ?
Malheureusement, non.
Et après, ces denrées sont stockées et redistribuées à la demande ?
Non, Mathilde, l'association n'a pas de local, elle a juste une camionnette. Une fois la collecte terminée, la camionnette qui sent bon, alors le croissant, se rend à l'Armée du Salut ou à Aurore, une organisation qui gère des hébergements pour les sans-domicile, livrée la manne du jour. Les hôteliers, surtout les plus jeunes, sensibilisés au gaspillage, profitent de cette initiative maintenant pour de plus en plus proposer d'autres dons qui ne sont pas alimentaires. Pierre Capel.
En fait, ce qu'on collecte le plus en termes de quantité, c'est les produits d'hygiène. C'est tous les flacons d'accueil qui sont donnés à chaque client. Donc c'est les gels douche, les shampoings, crème pour le corps, des fois après shampoing. Ces produits-là, soit on les récupère neufs parfois, soit en fait à moitié entamés ou à peine entamés. On les redonne à des associations qui proposent des douches à des personnes en précarité et ça les intéresse beaucoup.
Et comme vous allez aussi dans des hôtels de luxe, il peut y avoir par exemple des pantoufles.
Tout à fait, il y a beaucoup d'hôtels qui proposent des chaussons à chacun de leurs clients qui sont aussi utilisés, à peine utilisés et avant jetés, on les collecte. Ça sert aussi aux associations qui proposent l'hébergement.
Aujourd'hui, votre notoriété a grandi. Il arrive même maintenant que ce soit les hôtels qui vous appellent.
Je pense que le bouche à oreille marche de mieux en mieux. Les hôteliers voient que ça fonctionne. Je pense qu'ils sont moins frileux qu'au début. Oui, maintenant, en fait, c'est eux qui viennent vers nous plutôt que le contraire.
L'association, chaque semaine, Mathilde récupère en moyenne 1500 croissants auprès de 40 hôtels visités. À terme, avec plus de bénévoles, avis aux amateurs, Pierre envisage de passer de 3 collectes par semaine à 1 par jour.
Et je redonne le nom de l'association Hôtel Solidaire. La référence sera de toute façon sur franceinter.fr à la page de votre chronique Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
6h16, on passe à l'esprit d'initiative Emmanuel Moreau. Deux copains, l'un veilleur de nuit dans un hôtel, l'autre travaillant dans l'événementiel, organisent des collectes anti-gaspillage dans les hôtels parisiens.
Et oui Mathilde, 3 fois par semaine, la camionnette de l'association des hôtels solidaires fait sa tournée. Le lundi, elle est rive droite, le mercredi rive gauche et le samedi, les deux. Dès 11h du matin, ces bénévoles descendent du véhicule, panier à la main. Ils poussent la porte des cuisines des hôtels pour récupérer les buffets des petits déjeuners afin de les redistribuer aux personnes en difficulté. Au sourire des serveurs, ils savent qu'ils sont attendus et les bienvenus. Pierre Capel, cofondateur des hôtels solidaires.
Quand on arrive, les dons sont prêts en général. L'équipe nous connaît. Ils ont réservé en fait les viennoiseries qui n'avaient pas été consommées dans un petit sac ou ils les mettent dans les sacs alimentaires que nous on apporte. Et on repart directement continuer la collecte.
Alors qu'est-ce que vous collectez ? Aussi bien des tartines que des pains au chocolat ?
Alors ce qu'on collecte, c'est des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin, des brioches, des pains aux céréales, des fois des jus, des fruits. Mais la plus grosse partie, c'est vraiment des viennoiseries.
Et vous récupérez le beurre et la confiture ?
Non, malheureusement. À part si la confiture, elle est neuve et bien scellée, mais tout ce qui est produit frais et tout, on peut pas.
Donc pas de brouillé, pas d'omelette, pas de choses comme ça.
Malheureusement, non.
Et après, ces denrées sont stockées et redistribuées à la demande ?
Non, Mathilde, l'association n'a pas de local, elle a juste une camionnette. Une fois la collecte terminée, la camionnette qui sent bon, alors le croissant, se rend à l'Armée du Salut ou à Aurore, une organisation qui gère des hébergements pour les sans-domicile, livrer la manne du jour. Les hôteliers, surtout les plus jeunes, sensibilisés au gaspillage, profitent de cette initiative maintenant pour de plus en plus proposer d'autres dons qui ne sont pas alimentaires. Pierre Capel.
En fait, ce qu'on collecte le plus en termes de quantité, c'est les produits d'hygiène. C'est tous les flacons d'accueil qui sont donnés à chaque client. Donc c'est les gels douches, les shampoings, crème pour le corps, des fois après shampoing. Ces produits-là, soit on les récupère neufs parfois, soit en fait à moitié entamés ou à peine entamés. On les redonne à des associations qui proposent des douches à des personnes en précarité et ça les intéresse beaucoup.
Et comme vous allez aussi dans des hôtels de luxe, il peut y avoir par exemple des pantoufles.
Tout à fait, il y a beaucoup d'hôtels qui proposent des chaussons à chacun de leurs clients qui sont aussi utilisés, à peine utilisés, et avant jetés, on les collecte. Ça sert aussi aux associations qui proposent l'hébergement.
Aujourd'hui, votre notoriété a grandi. Il arrive même maintenant que ce soit les hôtels qui vous appellent.
Je pense que le bouche à oreille marche de mieux en mieux. Les hôteliers voient que ça fonctionne. Je pense qu'ils sont moins frileux qu'au début. Oui, maintenant, en fait, c'est eux qui viennent vers nous plutôt que le contraire.
L'association, chaque semaine, Mathilde récupère en moyenne 1500 croissants auprès de 40 hôtels visités. À terme, avec plus de bénévoles, avis aux amateurs, Pierre envisage de passer de 3 collectes par semaine à 1 par jour.
Et je redonne le nom de l'association Hôtel Solidaire. La référence sera de toute façon sur franceinter.fr à la page de votre chronique Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les titres. Vous allez écouter 3 documents sonores. Document numéro 1.
Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Mathieu.
Bonjour. Une innovation. Une innovation qu'on aimerait voir se développer en ce jour de galère dans les transports. Un vélo électrique en libre service, mais biplace. Écoutez bien. Et vous dites que ça n'a rien à voir avec un tandem ?
Non, rien à voir.
Ça ressemble beaucoup quand même sur le
papier. Non, rien à voir. Pour vous donner une idée, ça ressemble à un vélo traditionnel. C'est pas plus grand. Il y a juste une deuxième selle derrière à la place du porte-bagages, des poignées sur les côtés pour se tenir et des petits repose-pieds.
Ah oui, donc la personne ne pédale pas.
Non, ah oui, non.
En passager.
Et oui. Alors, je précise, la deuxième place ce n'est pas réservé aux enfants. On peut monter à deux adultes puisque le vélo accepte jusqu'à 250 kg. Et comme il est à assistance électrique, il n'y a pas besoin de deuxième paire de pédales, ni d'avoir des cuisses en béton pour pouvoir balader.
Si c'est moi votre passager, je ne suis pas convaincu que l'électricité vous aide.
Ça s'appelle Double Pony et malgré son nom, c'est français. Et c'est la première fois qu'on voit ce genre d'engin en libre-service.
Document numéro 2.
L'innovation du jour avec Anissé Mbida.
Il est là, Anissé. On va pas parler de jeux vidéo ce matin.
Non,
on va parler du vélo. L'utilisation du vélo qui a explosé avec les grèves dans les transports, bien sûr. Mais on s'est rendu compte aussi du manque de parking adapté. Heureusement, des solutions commencent à se mettre en place. Par exemple, un parking vertical où on empile les vélos les uns sur les autres.
Oui.
Faut pas arriver le premier et partir en premier.
Non, vous allez voir, c'est un système automatique. L'objectif, c'est évidemment de mettre un maximum de vélos dans un minimum de place. Parce qu'aujourd'hui, on vit, y a plus de place. Donc, on est obligé de sacrifier soit une partie du trottoir et c'est des piétons qui râlent, soit du stationnement pour les voitures, ce qui ajoute des bouchons. D'où l'idée de construire des petites maisonnettes, pas très hautes, un étage, avec un système totalement robotisé qui attrape le vélo dans un sas et qui va le ranger automatiquement en optimisant l'espace. Et pour vous donner une idée, avec ce système, on arrive à garer 50 vélos sur 24 mètres carrés, alors qu'avec la même surface aujourd'hui, on n'en met que 15 ou 16, donc 3 fois moins.
Document numéro 3.
Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'innovation continue dans les transports en commun, malgré la grève, tiens, on va le souligner. Une nouvelle génération de bus qui arrive à Paris et Marseille. La nouveauté, écoutez bien, ils pourront rouler en crabe pour manœuvrer plus facilement.
Oui, et ça va pas mal changer la vie des passagers et des conducteurs. Parce que je sais pas si vous prenez le bus à Paris, mais parfois on reste bloqué et impossible à tourner dans une petite rue parce qu'une voiture est mal garée. Bon, il peut pas se coller contre les trottoirs parce qu'il y a des livreurs. Et pourtant... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chauffeurs sont quand même plutôt doués dans les manœuvres. Eh bien, les nouveaux bus, eux, auront les quatre roues directionnelles. Ça veut dire qu'ils pourront manœuvrer dans des tout petits espaces, vous savez, comme les valises à roulettes. Donc, ils pourront tourner sur eux-mêmes, se garer en crabe et se faufiler dans les plus petits trous de souris de la circulation.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu.
Bonjour. Une innovation. Une innovation qu'on aimerait voir se développer en ce jour de galère dans les transports. Un vélo électrique en libre service, mais biplace. Écoutez bien. Et vous dites que ça n'a rien à voir avec un tandem ?
Non, rien à voir.
Ça ressemble beaucoup quand même sur le
papier. Non, rien à voir. Pour vous donner une idée, ça ressemble à un vélo traditionnel. C'est pas plus grand. Il y a juste une deuxième selle derrière à la place du porte-bagages, des poignées sur les côtés pour se tenir et des petits repose-pieds.
Ah oui, donc la personne ne pédale pas.
Non.
En passager.
Eh oui. Alors, je précise, la deuxième place n'est pas réservée aux enfants. On peut monter à deux adultes puisque le vélo accepte jusqu'à 250 kg, et comme il est à assistance électrique, il n'y a pas besoin de deuxième paire de pédales, ni d'avoir des cuisses en béton pour pouvoir balader.
Si c'est moi votre passager, je ne suis pas convaincu que l'électricité vous aide.
Ça s'appelle Double Pony et malgré son nom, c'est français et c'est la première fois qu'on voit ce genre d'engin en libre-service.
Document numéro 2, deuxième écoute.
L'innovation du jour avec Anissé Mbida.
Il est là, Anissé. On va pas parler de jeux vidéo ce matin.
Non,
on va parler du vélo. L'utilisation du vélo qui a explosé avec les grèves dans les transports, bien sûr. Mais on s'est rendu compte aussi du manque de parking adapté. Heureusement, des solutions commencent à se mettre en place. Par exemple, un parking vertical où on empile les vélos les uns sur les autres.
Oui.
Faut pas arriver le premier et partir en premier.
Non, vous allez voir, c'est un système automatique. L'objectif, c'est évidemment de mettre un maximum de vélos dans un minimum de place. Parce qu'aujourd'hui, on vit, y a plus de place. Donc, on est obligé de sacrifier soit une partie du trottoir et c'est des piétons qui râlent, soit du stationnement pour les voitures, ce qui ajoute des bouchons. D'où l'idée de construire des petites maisonnettes, pas très hautes, un étage, avec un système totalement robotisé qui attrape le vélo dans un sas et qui va le ranger automatiquement en optimisant l'espace. Et pour vous donner une idée, avec ce système, on arrive à garer 50 vélos sur 24 mètres carrés, alors qu'avec la même surface aujourd'hui, on n'en met que 15 ou 16, donc 3 fois moins.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'innovation continue dans les transports en commun, malgré la grève, tiens, on va le souligner. Une nouvelle génération de bus qui arrive à Paris et Marseille. La nouveauté, écoutez bien, ils pourront rouler en crabe pour manœuvrer plus facilement.
Oui, oui, et ça va pas mal changer la vie des passagers et des conducteurs. Parce que je sais pas si vous prenez le bus à Paris, mais parfois on reste bloqué et impossible à tourner dans une petite rue parce qu'une voiture est mal garée. Il peut pas se coller contre les trottoirs parce qu'il y a des livreurs. Et pourtant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chauffeurs sont quand même plutôt doués dans les manœuvres. Eh bien, les nouveaux bus, eux, auront les quatre roues directionnelles. Ça veut dire qu'ils pourront manœuvrer dans des tout petits espaces, hein, vous savez, comme les valises à roulettes. Donc, ils pourront tourner sur eux-mêmes, hein, se garer en crabe et se faufiler dans les plus petits trous de souris de la circulation.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.